Cap-Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir dans Cap-Cap un historien que, je l'espère, il faut encore que nous en parlions, vous entendrez désormais souvent sur cette antenne nous parler de sa discipline. Bonjour Jean-Marc Olivier.
Bonjour Jacques Lavergne.
Alors, je l'ai dit, vous êtes historien, comment ça vous est venu ce goût de l'histoire? C'était une tradition familiale? C'est un enseignant, des fois ça peut arriver au collège, au lycée, qui vous éblouit? Il y en a encore quelques-uns qui arrivent à éblouir?
Oui, oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas du tout de tradition familiale. Moi, tous mes ancêtres sont dans l'agriculture. Mon père rêvait d'être paysan aussi, mais comme il n'était pas le fils aîné, il a dû aller travailler aux usines Peugeot et après il a monté son auto-école avec ma mère, donc rien à voir. Non, moi j'étais fils unique, donc j'étais beaucoup dans les livres et la passion de l'histoire, en fait, elle remonte pratiquement au CE1 avec un instituteur, Monsieur Anglade, qui m'a aussi assez fasciné. Donc, comme quoi, ça peut commencer très tôt avec des enseignants passionnants et passionnés.
Et alors, quand on est passionné d'histoire, qu'est-ce qu'on fait? On passe le CAPES, c'est ça?
Oui, 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 bah oui, parce que les débouchés, alors, les débouchés sont de plus en plus variés quand même. Faut pas penser qu'on ne peut devenir qu'enseignant, mais moi, l'enseignement m'attirait depuis longtemps. J'ai été moniteur de colonies de vacances, comme on disait à l'époque, animateur. Donc, ça me plaisait de transmettre aussi, puis la recherche également. Donc, j'ai commencé, bien sûr, par les concours, le CAPES, très tôt, parce qu'on pouvait le passer après la licence. Donc, j'ai commencé à enseigner à 22 ans. Et après, l'agrégation, parce que c'est un peu une condition sine qua non avec la thèse pour candidater à l'université, avoir une chance d'être élu maître de conférence, parce que ça permet d'être enseignant-chercheur. Le rêve.
Ah, le rêve, oui. Et alors, vous avez fait également un doctorat. Alors, quelle est la différence entre l'agrégation et le doctorat? On peut enseigner avec une agrégation.
Oui.
Qu'est-ce qu'apporte le doctorat? C'est, en l'occurrence, un doctorat d'histoire économique contemporaine. Qu'est-ce que ça apporte en plus?
Alors, le doctorat, c'est la condition vraiment essentiel pour candidater sur un poste à l'université. En plus, il faut être qualifié par le Conseil national des universités, mais ne peuvent candidater que ceux qui sont docteurs dans une discipline. L'agrégation, ça n'a rien à voir, c'est un concours de l'enseignement secondaire, donc il y a un certain nombre de postes, de l'ordre de 80, je crois, aujourd'hui, l'agrégation externe d'histoire, que l'on, à l'époque, fallait avoir sa maîtrise pour le passer, pour pouvoir le passer. Et donc, c'est un horrible concours, un des plus redoutables au monde, avec 4 écrits de 7 heures, 4 jours consécutifs, 3 euros dans les amphis de la Sorbonne ouverts au public, de, je me rappelle, 6 heures de préparation, une demi-heure d'oral, une demi-heure de questions par un jury de 5 personnes. Donc, un combat, mais nécessaire. Donc, voilà. Pour ensuite travailler moins et gagner plus, puisque l'agrégé ne fait que 15 heures au lieu de 18 et gagne mieux sa vie que le certifié.
Voilà. Qui gagne mieux sa vie, ça se comprend, mais c'est curieux que ceux qui auront finalement la meilleure formation, qui sont les plus costauds, transmettent le moins. C'est toujours très
surprenant. Bon, après, oui, souvent les agrégés, en lycée, en particulier à l'époque où j'y étais, dans les années, donc 80, avait des heures sup, ce qui était aussi intéressant financièrement. D'ailleurs, quand je suis arrivé à l'université, comme maître de conférence, mon salaire a pas mal diminué.
Comment se fait-il que, vous avez dit quelle était la difficulté de ce concours d'agrégation, comment se fait-il qu'il ne suffise pas pour l'université? Qu'est-ce qu'apporte le doctorat en plus?
Le doctorat, c'est la preuve que vous avez accompli une recherche et que vous l'avez faite dans les règles et que vous avez publié une thèse avec sur un sujet novateur avec tout l'appareil critique, c'est-à-dire des centaines voire des milliers de notes en bas de page, une biblio très travaillée, très commentée et beaucoup de sources diverses, des sources croisées, comme parce qu'il faut faire attention en histoire, en recherche en histoire, c'est comme en droit. Testis unus, testis nullus.
Et oui.
Donc, il faut croiser les témoignages, les sources.
Alors, j'ai cru comprendre, parce que j'ai accompagné ma complice de l'émission Economica, Anisla, qui dirige des thèses, et je l'ai accompagné à une soutenance d'une jeune femme qu'on avait reçue ici à plusieurs reprises. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait différents types de doctorats. Aujourd'hui, il y a des doctorats un peu simplifiés. Il suffit d'avoir publié 3-4 articles un peu fouillés pour qu'on se retrouve docteur, ce qui n'était pas le cas de la jeune femme, d'ailleurs, qui avait fait une somme considérable.
Effectivement, effectivement. Alors, je vais plaider, bien sûr, la cause des historiens, parce que je pense que le doctorat en histoire est une des entreprises les plus redoutables. C'est vrai qu'en sciences dures, ils manipulent beaucoup de données, ils ont des doctorats financés, mais nous, souvent, en histoire, on est enseignant dans le secondaire et on fait sa thèse en même temps. Donc, faudrait pas que mes étudiants l'entendent, mais moi, j'ai dû mettre 8 ans, je crois, pour boucler ma thèse, en passant les étés aux archives, etc. Donc, une thèse d'histoire, ça peut facilement, même si je l'interdis aux étudiants, mais l'un de mes étudiants récemment, Claire Juillet, elle a dépassé la limite des 1000 pages. Mais normalement, on essaye de les empêcher de faire plus de 1000 pages. C'est très rare qu'un historien boucle sa thèse en 3 ans. C'est même mal vu. Donc, c'est souvent 4, 5, 6 ans, c'est le maximum. Après, c'est très dérogatoire. Bon, mais...
Alors, votre sujet était le suivant, société rurale et industrialisation douce, dans le Jura.
Voilà, dans l'arc jurassien, la montagne jurassienne, oui.
Qu'est-ce que ça vous a amené à conclure cette société rurale et industrialisation douce ? Elle n'a pas été douce partout, quand même.
Oui, un des membres du jury m'a dit, oui, doucereuse, quand même, un peu. alors, ce qui s'est passé dans la montagne jurassienne, mais c'est vrai aussi sur le versant suisse, on a des ruraux plus réactifs, très attachés à la terre, mais qui complétaient leurs revenus et qui travaillaient à la fenêtre pendant l'hiver, y compris énormément de femmes, et qui ensuite se sont lancées, ont monté des entreprises, comme vous le savez. Et beaucoup d'entreprises horlogères ou lunetières sont nées dans ces campagnes jurassiennes, Morée, capitale de la lunette, par exemple, et j'ai centré une partie de ma thèse là-dessus. C'est donc une sorte de contre-exemple, parce qu'on a tous en tête la révolution industrielle, les grandes usines, et à côté de ça, ce qui est troublant, c'est que la France, il n'y a presque pas de grandes usines. On cite toujours les mêmes, le Creusot, les usines de Mulhouse dans les Cotonades, l'île Roubaix-Tourcoing à la rigueur. Mais le reste, les objets manufacturés sont produits de manière très dispersée dans la ville. On pourra parler du cas de Toulouse, qui est très intéressant, qu'on a longtemps pris pour un grand village, mais qui n'est pas du tout un grand village. C'est une ville industrieuse, avec une sorte d'industrialisation douce, beaucoup de travail à domicile, mais dans les campagnes aussi. Donc, on pensait que les paysans étaient, entre guillemets, des cutéreux, et que l'agriculture qu'ils intéressaient, mais non. Beaucoup d'entrepreneurs venus des campagnes ont réussi à créer des entreprises impressionnantes. Des horlogers suisses, parmi les noms vraiment très connus, des familles comme Breguet, par exemple, sont venus de milieux assez modestes et ont donné naissance à des immenses groupes qui existent toujours d'ailleurs et qui se sont diversifiés.
Oui. Vous avez employé une expression que j'ai relevée, le travail à la fenêtre.
Oui.
Ça, je ne l'avais jamais entendu.
Parce que quand on travaille sur des petites pièces, comme les pièces d'horlogerie, en particulier de montres, dans l'horlogerie suisse, ou les lunettes qu'il faut monter de manière très précise, l'habileté des femmes d'ailleurs est bien supérieure à celle des hommes, mais ce sont les grandes invisibles dans les archives. Il faut de la lumière. Et en hiver, la lumière, il faut vraiment aller la chercher plein sud à la fenêtre. Donc on appelait ça travailler à la fenêtre.
Ouais. On pourrait faire le lien, peut-être un peu hardi, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que tous ces gens qui travaillaient à la fenêtre, ou tous ces gens qui partaient pour monter une entreprise, c'est qu'ils ne pouvaient pas vivre sur leur terre et de leur travail de paysan.
Exactement. Ils n'avaient pas assez de terres. Souvent, les paysans du 19e siècle ont moins de 10 hectares, ce qui ne suffit pas pour faire vivre une famille encore nombreuse au 19e siècle, même si la France est le premier pays malthusien. Mais ils sont très attachés à cette terre. La Révolution les a rendus propriétaires. Donc, ils sont littéralement fixés sur leur terre. Et si leur exploitation agricole disparaît... Quelque part, ils disparaissent, ils trahissent tout un héritage. Et donc, ils ont une obsession de la terre. C'est Zola, la terre. On est prêt à tuer même pour acquérir des parcelles supplémentaires. Et pour pouvoir vivre sur cette terre trop petite, il faut trouver des revenus complémentaires. Et c'est particulièrement vrai dans la montagne, dans les Pyrénées aussi, mais dans les Alpes, dans le Jura. Pendant les hivers, les sociétés d'élevage, en particulier d'élevage laitier, pour faire des fromages, comme ce qu'on appelle aujourd'hui le comté, mais ça s'appelait surtout le gruyère à l'époque, ça laisse des temps libres. Entre la traite du matin et la traite du soir, une fois que vous avez nettoyé les écuries, comme on disait, vous avez du temps libre. Donc là, vous pouvez faire des éléments, parce qu'il y a quelques entrepreneurs citadins qui, au départ, ont distribué le travail en divisant le travail. Donc c'est une sorte d'industrialisation dispersée dans les campagnes. Et puis après, c'est paysans très techniciens, parce que pendant l'hiver, il faut tout savoir faire, il faut réparer la toiture, etc. Hein. On ne peut pas compter sur des artisans, là. Hein. Eh bien, ils ont trouvé des nouveaux produits, ils ont été inventifs et ils ont développé leurs propres entreprises. Mais ils ont conservé le lien avec la terre le plus longtemps possible, parce que la terre est une sorte d'obsession. Ce revenu complémentaire permet donc de s'enrichir, ou en tout cas de se maintenir. Et le travail des femmes est très apprécié, parce que évidemment, les hommes avec leurs gros doigts et une consommation d'alcool assez forte au 19e siècle, hein, sont beaucoup moins efficaces que les femmes. Plus délicate sur les petites pièces, consommant moins d'alcool. D'ailleurs, les dernières lunetières à domicile que j'ai pu interviewer me disent avec grand plaisir qu'elles gagnaient beaucoup plus parce que c'était payé aux pièces.
Parce qu'il y a toujours des lunetières à domicile ?
Pratiquement plus, mais ça existe encore un petit peu. La lunetterie existe toujours à Moret avec quelques travailleurs à domicile, mais sur des éléments très spécifiques, quoi. Oui. Ça disparaît dans la deuxième moitié du 20e quand même.
Alors vous avez enseigné en lycée ?
Oui, oui, longtemps, une dizaine d'années. Oui.
Et collège, hein, donc en Franche-Comté, qui est votre pays finalement.
Oui, oui, je suis originaire de Franche-Comté, comme mon accent ne l'indique plus, mais non. Je n'ai pas l'accent de Toulouse. J'ai perdu mon accent franc-comtois. Alors je suis à moitié suisse par ma mère aussi, mais des Suisses pauvres, hein, ça existe. Hein, il y a des Juifs pauvres, il y a des Suisses pauvres aussi.
Il y a des Suisses pauvres aussi, oui.
Ouais. Et qui ont émigré, qui sont nés en France.
Ouais. Et puis rapidement, vous vous êtes tourné vers l'université, enfin après une dizaine d'années de travaux et cette fameuse thèse de doctorat.
Mais j'étais chargé de cours, j'étais non titulaire. Chargé de cours dans l'université de Besançon, et après ils ont créé une antenne dans le pays de Montbéliard, parce qu'en début de carrière on nous envoyait dans la région industrielle, le pays de Montbéliard c'est le pays des Peugeot, hein. Nous envoyait dans le nord de la Franche-Comté parce que personne ne voulait aller là, donc les jeunes enseignants se retrouvaient là, mais moi ça m'a beaucoup plu, c'est un monde à part, vous savez, le pays de Montbéliard, le pays des Peugeot, de la Peuge comme ils disent là-bas avec l'accent, c'est très particulier. D'abord les Peugeot sont des luthériens, la seule ville luthérienne de France c'est Montbéliard, parce que ça appartenait au Wurtemberg luthérien, et les Peugeot sont tous luthériens. Il a fallu attendre très longtemps avant qu'un directeur catholique soit nommé à la tête de Peugeot par exemple, hein. Donc c'est un monde à part, avec des temples luthériens au centre de chaque ville, dont Montbéliard, Sochaux aussi, la ville des Peugeot encore plus. Après, ils ont fait venir beaucoup d'ouvriers catholiques, dont mon père. Donc, église dans la première couronne. Et puis, bien sûr, ensuite, ouvriers venus essentiellement d'Afrique du Nord. Donc, mosquée dans la deuxième couronne.
Un peu Michelin, Clermont ?
Un petit peu, oui, quelque part. Ouais.
On peut faire le parallèle. Vous avez été, alors, au lycée Cuvier de Montbéliard. Oui. J'ai noté professeur d'histoire-géographie.
Ah oui, bien sûr, on enseigne les deux matières.
Vous enseignez deux matières. Mais alors, comment ça se répartit, là? Parce que l'histoire, c'est une chose, la géographie, ça en est une autre.
Oui, alors le concours, le CAPES, par exemple, c'est un CAPES d'histoire-géographie. Donc, vous avez moitié-moitié à l'écrit. Un écrit d'histoire, un écrit de géographie. Donc, il faut être fort en géographie. C'est même en géographie qu'on fait la différence. Moi, j'avais une passion pour les cartes, etc. Donc, j'aimais bien la géographie aussi. Et à l'agrégation, alors là, il y a deux agrégations. Il y a celle d'histoire, il y a celle de géographie. Mais à l'agrégation d'histoire, vous avez quand même une épreuve de géographie dans les fameux 4 écrits de 7 heures. Vous avez un écrit de géographie. Et à l'oral, sur les 3 oraux, vous avez un écrit en géographie aussi.
Donc, une espèce de double compétence.
Obligatoirement, oui, pour enseigner ensuite. Oui.
Et vous êtes arrivé à Toulouse.
Oui.
Alors, on dit, les vieux Toulousains disent le Mirail, mais en réalité, elle a été rebaptisée. C'est l'université Jean Jaurès aujourd'hui.
Voilà, c'est un combat, oui, de Rémi Pêche et de Jean-Michel Ménovès.
Ils ont gagné, et heureusement, parce que bon, c'est quand même beaucoup plus parlant, l'université Jean Jaurès, que l'université du Mirail.
Oui, bon, on la localise bien comme ça, l'université du Mirail.
Qu'est-ce qui vous a amené à Toulouse?
Alors, pour être maître de conférence, donc enseignant-chercheur à l'université, ce qui était mon rêve, hein. Vous devez candidater sur différents postes, donc et correspondre au profil
au de profil.
Préférence, qui est un profil défini par le département qui recrute. Donc c'est un profil, moi, d'histoire économique et sociale très net. Donc ça me correspondait bien. Et donc j'ai candidaté aussi à Poitiers. Ils m'ont convoqué d'ailleurs à l'oral le même jour parce que j'étais retenu pour l'oral. On est d'abord sélectionné sur les dossiers écrits. Et donc, mon beau-père m'a très gentiment fait faire le tour de France, Franche-Comté, Poitiers, le matin, j'ai demandé à passer le premier, pour pouvoir être à Toulouse pour l'oral l'après-midi. Donc, voilà, j'ai... Et j'ai été élu par les Toulousains, bien qu'en n'étant pas Toulousain et totalement inconnu par eux. Il y avait des candidats locaux.
C'est peut-être pour ça, justement, ça leur a évité de prendre un local.
À cette époque-là, dans ce qu'on appelle les COS, ces comités de sélection, il y avait une majorité de locaux. Donc, il y avait une sorte de recrutement très local, surtout si vous aviez quelqu'un qui donnait satisfaction. Et donc, c'était un combat difficile pour les extérieurs. Mais moi, il n'y avait pas de poste en Franche-Comté. Il n'y avait pas de poste à Lyon non plus, où j'ai soutenu ma thèse. Donc, j'ai fait le Tour de France et ça a marché. Donc, j'ai été élu à Poitiers et à Toulouse. Mais j'ai choisi Toulouse parce que j'avais aussi une passion pour l'aéronautique, les maquettes, les avions, etc.
Vous êtes intéressé à l'histoire contemporaine.
Oui,
qu'est-ce que ça commence où cette contemporanéité?
Ah là là, grand débat. Alors, en Franche-Comté, ça commençait en 1789. Quand je suis arrivé à Toulouse, ils faisaient commencer la période contemporaine en 1815. Donc, chaque université a un peu sa vision. Puis, comme la période contemporaine s'allonge de plus en plus, forcément, aujourd'hui, en général, on laisse la Révolution et l'Empire plutôt aux modernistes. Voilà, donc 16e, 17e, grand 18e.
Et ça s'arrête où? Il n'y a pas de limite?
Il n'y a pas de limite, parce que maintenant, j'ai eu comme collègue François Soulet, qui a créé le concept d'histoire immédiate. Hein. Il y a aussi à Paris l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Les historiens, depuis une trentaine d'années, on va dire, en gros, se sont emparés des sujets très contemporains, alors qu'auparavant, ils avaient très peur d'aborder ces sujets. Aujourd'hui, les historiens travaillent sur le très contemporain. Ils ne le laissent plus aux géographes, aux anthropologues. Et ce qui m'avait surpris quand je suis arrivé à Toulouse, c'est que l'histoire de l'aéronautique n'était pas étudiée par un historien. C'était les géographes. D'ailleurs, c'est devenu un ami, Jean-Marc Zuliani, entre autres. Mais il a eu des prédécesseurs qui travaillaient sur l'histoire de l'aéronautique, essentiellement, un peu les sociologues. Et donc, j'ai eu un champ ouvert pour me lancer dans l'histoire de l'aéronautique et du spatial.
Oui, alors j'allais poser la question de savoir si le spatial était inclus dans l'aéronautique.
Alors là aussi, les définitions varient. Des fois, il y en a qui disent que l'aéronautique, c'est que l'aviation, et d'autres qui disent, bon, non, l'aéronautique, ça va jusqu'au spatial. Bon.
Alors, quand on pense à l'histoire, on pense quand même à des temps quelque peu anciens.
Oui.
Et donc, on se dit que l'historien travaille avec du recul, ce qui lui permet de tirer des enseignements. Si vous faites de l'histoire sur des faits très récents, est-ce que vous arrivez à avoir le recul nécessaire?
C'est pas facile, oui. Alors, c'est pour ça que moi, mon métier d'historien, il est co-substantiel de mon existence. Donc, j'ai eu des très bons profs en Franche-Comté qui m'ont enseigné la quête d'objectivité. Et donc, j'ai appliqué ça à la lettre. Et par exemple, je me suis jamais engagé dans un parti politique ou dans un syndicat parce que j'estime que c'est des fois difficile de gérer les deux, même si c'est possible. Il y a les grands historiens qui l'ont très bien fait. Et pour moi, ça me semblait quand même trop compliqué. Donc, j'ai eu cette approche-là. Et surtout, j'ai toujours voulu rencontrer toutes les tendances. Je suis très proche de Med Keshidi, qui est un économiste, mais qui est plutôt un économiste de gauche, Piketty. Mais j'ai été le premier à inviter très tôt au Mirail, la fac de gauche, Jean Tirole. Ce qui m'a valu des remarques d'ailleurs assez virulentes de certains de mes collègues.
De la chance, vous n'avez pas invité Sylvain Tesson, qu'en aurait-on dit.
Ah oui, voilà, oui. Mais Jean Tirole, c'était bien avant son prix Nobel. Hein. Ouais. Donc on avait un ami commun avec Jean Tirole, qui votait pour le prix Nobel d'ailleurs, qui est un historien de l'économie suédoise, Lars Magnusson. Parce que c'est pas vraiment un prix Nobel, le prix Nobel d'économie, c'est un prix de la Banque de Suède, c'est particulier. Et donc les Suédois sont très présents, Lars Magnusson, donc était un petit peu entre Jean Tirole et moi, et on s'est connus comme ça. Quoi.
Vous avez été également chargé des relations internationales de l'université.
Oui, à l'appel d'un autre ami, Jean-Michel Minoves, qui a été élu président, et qui a souhaité, comme il savait que je m'intéresse beaucoup à l'international, je m'occupais du labo, et donc le labo FRAM-MESPA est un labo d'historiens où il y a beaucoup d'international, hein. Donc j'avais cette habitude de travailler avec des partenaires étrangers. Et Jean-Michel, dont j'étais proche, hein, m'a dit « Écoute, ce serait bien ». Donc j'ai abandonné la direction du labo et je suis devenu ce qu'on appelle le VPRI, le vice-président relations internationales. Et donc j'ai accompagné Jean-Michel, puis après il m'a envoyé un peu tout seul aussi.
Alors ça veut dire que vous avez fait un peu l'ambassadeur de cette université?
Oui.
Ça consiste en quoi? Vous voyagez? Vous allez vanter les mérites de la maison?
Oui, on essaye surtout de signer des accords, ce qui n'est pas facile, parce que en fait, les bons accords, c'est les accords avec des universités prestigieuses, qui sont presque toutes des universités américaines, australiennes, etc., scandinaves. Mais là, j'avais des entrées parce que je travaille sur la Scandinavie. Donc, c'est un combat parce qu'en fait, quand on arrive, ils voient tout de suite que nous sommes des universités françaises, pas bien classé, et ça s'explique par le fait que nos universités sont spécialisées, donc mal classées. Mais quand elles ont réussi à fusionner ou à se regrouper, ce qu'on n'a pas fait Toulouse, hélas, jusqu'au bout, elles sont bien classées quand même, donc ça est en train de changer, heureusement. Donc, elles trouvent qu'on n'est pas très bien classées. Les universités, donc états-uniennes en particulier, trouvent aussi que nos droits sont ridicules, puisque c'est presque gratuit, hein, l'université en France, alors qu'aux États-Unis, c'est extrêmement cher. Donc, signer avec une université américaine, c'est un exploit. Faut passer par des amis, faut vraiment tout essayer pour arriver à signer des accords. Donc, ça a été essentiellement ça. Et donc, oui, je me suis beaucoup déplacé, mais pas toujours dans des endroits paradisiaques. J'ai surtout vu des universités. Le plus drôle, si je peux, petite anecdote amusante, enfin, pas pour moi, mais pour les autres. On a une antenne universitaire à Kuala Lumpur. On allait donc deux fois par an pour la remise des diplômes, parce qu'ils sont très attachés. Donc, c'est l'ISTIA, l'Institut supérieur du tourisme et de l'hôtellerie et de l'alimentation. Jean-Pierre Poulain, etc., qui a réussi cet exploit de signer un accord là approfondi avec antenne réciproque, donc avec l'université donc Taylor's de Kuala Lumpur. Donc on allait en mission là-bas et on en profitait pour signer d'autres accords, et en particulier pour l'ISTIA. Et c'est là que j'ai eu une mésaventure assez amusante, c'est-à-dire qu'on a voulu signer avec l'Indonésie. L'ISTIA nous a dit « il faut signer en Indonésie ». Donc, mission très courte, on partait sur 3-4 jours. Donc, oui, je sais, le bilan carbone est catastrophique, mais c'était pour la bonne cause.
Je l'ai pensé très fort,
oui, j'ai senti. Donc, mission très courte, mais efficace. Donc, Jakarta, signature, et Bali, parce qu'il y a une université du tourisme et de l'alimentation, etc., à Bali. Donc, j'ai fait un aller-retour à Bali, et je n'ai vu de Bali, je dois être le seul au monde, je pense, que l'université. J'ai vu les plages, les rizières en terrasse, magnifique, hein, depuis l'avion, c'est tout. Voilà. Donc,
c'est un peu dommage.
Oui, un peu dommage.
Tant qu'à y être, comme l'on dit chez nous. On fait une première pause musicale, c'est vous qui avez choisi. Qu'est-ce que vous voulez nous faire écouter ?
Ah oui, bon, c'est très années 70, hein. Le groupe est même né, je crois, à la fin des années 60, mais le morceau doit être du début des années 70.
71.
Ah oui, bien. Donc c'est un groupe britannique, Led Zeppelin, et leur une de leurs chansons phares qui a donné lieu à plein de débats d'ailleurs, Stairway to Heaven, un escalier pour le paradis, avec des paroles. Alors j'avais un copain qui était fils de d'enseignant en langue et qui m'avait traduit les paroles, parce que mais c'est pas très clair les paroles de Stairway to Heaven, mais la mélodie est magnifique. Et donc ils ont eu même un procès pour un peu pour sont pas ce disque à l'envers, il y a un petit côté satanique, enfin bon, c'est bon, en fait ils ont nié tout ça, les tribunaux leur ont donné raison d'ailleurs, et donc c'est voilà, c'est une musique, j'ai découvert ça moi dans à mon adolescence dans les années 70, et ça m'a fasciné, tous ces groupes britanniques et états-uniens, voilà.
Ooh, 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 ooh. sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misheard.
Voilà, Led Zeppelin, nous retrouvons Jean-Marc Olivier qui a fait ce choix et nous parlons avec lui bien de ce qu'est sa vie, l'histoire, et puisqu'il est professeur agrégé d'histoire, entre autres, à l'université Jean Jaurès. Alors l'histoire, Jean-Marc Olivier, l'histoire, ça sert à quoi finalement l'histoire ?
Ah là là, hein, ça sert à tout et ça sert à rien, diront certains. Je pense qu'on a besoin quand même d'historiens, en particulier en ce moment, parce que cette quête d'objectivité que j'ai évoquée, elle est de plus en plus nécessaire, et c'est de plus en plus nécessaire de convoquer aussi les archives les plus diverses possibles, les témoignages, l'enquête orale, etc. Et d'inviter aussi les entreprises à déposer pour qu'on connaisse la vraie histoire. Donc récemment, j'ai beaucoup travaillé sur le Concorde. Et je remercie André Turca, qui a eu deux vies dans sa vie. André Turca, bon, chef pilote d'essai, bien sûr, du Concorde, mais qui ensuite a fait une thèse dans notre université. Il est docteur de l'université Toulouse-Jean Jaurès, pas le Mirail à l'époque.
Dans quelle discipline ?
En histoire de l'art. Ouais, histoire de l'art, époque moderne, sur un peintre français qui s'était exilé dans le royaume de Castille. Et je pense que chez lui, ça a déclenché un réflexe que malheureusement, beaucoup d'entreprises n'ont pas, c'est de déposer toutes ses archives aux archives départementales de la Haute-Garonne et de dire qu'elle serait libre d'accès. Et il a tout déposé. Même des lettres parfois un petit peu critiques. Même lui, parfois, émet quelques doutes sur le Concorde. Mais il a tout gardé. La preuve, même les dessins que lui envoyaient les écoles maternelles, les dessins du Concorde, etc., il a tout gardé. Alors qu'il a, il y a plus de 100 cartons, ce qu'on appelle le fonds Turca, qui a été classé par Fabienne Péris. Et bon, j'ai énormément travaillé dans ce fonds parce que bon, bien sûr, quand on est historien, on est amoureux des archives aussi. C'est une formidable source. Après, il y a l'enquête orale. J'ai aussi enquêté auprès de Bernard Ziegler, le fils d'Henri Ziegler, qui m'a révélé des choses sur son père, que son père disait dans les repas de famille, qui n'ont jamais été publiés, parce que le Concorde, comme on le sait, c'est encore un mythe en grande partie. On est beaucoup dans la géographie. Quoi.
Quels enseignements tirent du passé ? Est-ce que véritablement on peut en tirer un enseignement qui va éclairer notre futur ?
Oui, j'espère en tout cas. Hein, j'espère qu'il faut justement, il faut toujours être prudent. Il faut toujours écouter différents avis et bien comprendre aussi que la mémoire n'est pas l'histoire. Hein, que ce que l'on conserve en mémoire, c'est pas forcément l'histoire. Et sur des sujets brûlants aujourd'hui, faut donc faire très attention. Il faut revenir aux faits historiques. Hein, attester et se faire sa propre opinion en toute objectivité et convoquer pour cela des lectures, des publications qui sont pour nous historiens des publications scientifiques, c'est-à-dire des publications avec appareil critique, c'est-à-dire des revues qui n'acceptent que des articles en double évaluation en aveugle, c'est-à-dire que ils ne savent pas qui écrit l'article, les évaluateurs, ils sont spécialistes du domaine mais ne savent pas qui a écrit l'article. Et l'auteur ne sait pas s'il a des remarques ou s'il est refusé, il ne sait pas par qui s'est effectué ce refus. Et puis surtout, toujours citer le plus possible des sources de première main, remonter aux sources de première main pour être le plus proche possible de la vérité et des sources variées. Donc ça aide à être dans une position la plus neutre. Et il faut militer aussi pour la liberté d'expression, parce que sans liberté d'expression, il n'y a pas d'historien. Quoi.
Et l'enseignement n'est jamais neutre d'une matière. Vous avez dit, il faut que ce soit neutre. Alors, on va tendre peut-être à la neutralité.
Voilà, on tend vers la neutralité et l'objectivité. L'objectivité parfaite, ça n'existe pas.
L'interprétation
évidemment.
De l'histoire, on l'a vu par exemple sur la Révolution française, Bonnazouf et les autres. On a vu qu'il y avait une vision qui pouvait être un peu biaisée ou qui n'était pas partagée en tout cas.
Bien sûr, parce qu'il y a deux courants historiques qui sont appropriés à la Révolution française. Il y a les historiens, influencés par le marxisme, et donc qui ont beaucoup écrit, entre autres, dans les annales, puisque les annales, c'est la rencontre de la pensée de Karl Marx et de celle de Durkheim, et qui a créé cette revue, qui est née en 1929, mais ça n'a rien à voir avec la crise. Mais, et donc, il a renouvelé l'histoire, qui était surtout une histoire politique, justement, qui est devenue une histoire économique et sociale. Et là, donc, des historiens très engagés. Moi, j'ai eu un prof à Besançon, justement, qui était membre du comité central du Parti communiste et qui était un grand spécialiste de la Révolution française, Antoine Casanova, qui nous faisait des cours, et qui étaient des cours passionnants, mais orientés. Mais en même temps, Antoine Casanova, il avait un côté amusant, c'est qu'il était corse. Donc quand il parlait de Napoléon, évidemment, pour un membre du Parti communiste, responsable des relations avec les intellectuels, membre du bureau central du Parti communiste, Antoine Casanova, Napoléon, c'est la fin de la République, c'est le code civil napoléonien, la femme devient une éternelle mineure, de sa naissance jusqu'à sa tombe, etc., etc. C'est les guerres, les morts, une sorte de dictature finalement, l'Empire. Et puis il craquait au bout d'un moment, et le côté corse remonte à la surface, il disait « oui, mais quand même ». Quel homme, avec l'accent corse, bien sûr. Oui. Il est donc on avait les deux côtés, vous voyez.
C'est un peu schizophrène.
Ah oui, c'était compliqué pour lui, je pense. Ouais.
Dans quel état est l'enseignement de l'histoire aujourd'hui ? Alors, à l'université, C'est différent, ce sont
oui.
des étudiants qui ont choisi.
Oui,
mais,
c'est vrai.
Mais si on redescend un peu au collège et au lycée, comment ça se présente ? Est-ce qu'il y a encore un engouement des jeunes pour cette matière ? Alors, on peut également y mettre la géographie dans
oui.
cette
Alors,
réflexion.
Oui, alors bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas enseigné en collège et en lycée, parce que ça remonte, moi, mes dernières années d'enseignement collège-lycée, c'est les années 90. Et c'est une époque où il y a encore une sélection forte. J'étais en lycée en plus, donc franchement, il n'y avait pas de problème. J'avais des classes à 40 élèves, il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, quand je suis arrivé dans mon lycée de Montbéliard, le pays de Montbéliard, donc où il y a beaucoup de travailleurs immigrés, mes collègues m'avaient réservé les classes options arabes. Donc j'avais 40 élèves en seconde, par exemple, dont une bonne partie étaient des jeunes dont les parents étaient maghrébins, quoi, qui étaient venus travailler chez Peugeot. Et ça s'est très bien passé. Je pense qu'aujourd'hui, les tensions sont plus fortes. Il y a même des sujets qu'on,
oui, apparemment,
en collège et lycée qu'on a du mal à aborder, en histoire religieuse en particulier. Mais c'est pas du tout mon domaine. Mais j'ai eu des retours de collègues. Mais là, je peux pas en parler. À l'université, ça reste une sorte de, on peut dire, de petit paradis, parce que bon. Les problèmes de discipline, ça n'existe pas vraiment à l'université. Ou alors c'est du lourd, c'est le blocage, quoi. Oui. Ça, c'est le Mirail. Oui, c'est la totale. Bon,
Mirail, ils aiment bien bloquer de temps en temps.
Mais comme je dis souvent à mes collègues, aux étudiants, nous, les étudiants pénibles, pas motivés, chahuteurs, ils restent couchés, on les voit pas. Les cours sont pas vraiment obligatoires, il y a pas un contrôle systématique. Donc, on a que ceux qui sont motivés en cours, donc c'est bien plus facile. Et puis, il y a aussi une liberté, une ouverture d'esprit. Par exemple, le port du voile est autorisé à l'université, parce que comme les universités ont des relations internationales fortes, on ne pouvait pas avoir des relations internationales avec certains pays si on interdit le voile dans l'université. Donc, ça, c'est pas une question, quoi. Donc, c'est un autre univers.
C'est une matière qui est, comment on dirait maintenant, genrée. Il y a plus d'hommes que de femmes, ou c'est égal, ou peu importe d'ailleurs.
C'est un vaste sujet. Non, il y a c'est relativement équilibré. En général, je pense que maintenant il y a plus de femmes que d'hommes, peut-être en histoire. Mais comme moi, je suis très spécialisé dans l'histoire de l'aéronautique et de la conquête spatiale. Le master dont je m'occupe là, c'est le master aéro, comme on dit entre nous, il y a quand même plus d'hommes que de femmes, mais c'est en train d'évoluer.
Où ça mène l'histoire aujourd'hui ? Parce que effectivement, il y a l'attrait intellectuel et on peut difficilement vivre sans savoir ce qui s'est passé avant nous. Sinon, je pense que ça va très mal se passer pour l'avenir. Ça va très mal se passer de toute façon. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut attendre à la sortie de l'université quand on est diplômé en histoire ? Vers quelle branche on va se diriger pour gagner sa vie ?
Alors, il y a le classique, les concours de l'enseignement. Mais on s'aperçoit que de moins en moins, les étudiants quand même privilégient cette voie. En fait, les historiens ont quand même un atout, surtout après un master recherche, par exemple. Ce sont des étudiants qui savent écrire, puisqu'ils ont été, en quelque sorte, obligés de rédiger une sorte de livre, leur master recherche, le M2, comme on dit, le master 2, la deuxième année de master, qui fait au moins une centaine de pages rédigées, et parfois beaucoup plus. Et donc, ils ont cet atout. Ils savent rédiger, ils savent s'exprimer à l'oral parce qu'il y a énormément de contrôle sous forme d'exposés d'oraux. Donc ça aussi, c'est un atout. Ils savent argumenter le pour, le contre. Donc, ils sont assez recherchés dans des domaines comme la communication, le journalisme, le patrimoine, etc. Donc, tout ce qui est valorisation. Et la plupart des étudiants en histoire qui ont validé leur master, en particulier master recherche, trouvent des emplois assez variés. Alors après, ils rebondissent et ils partent vers Sciences Po aussi. Ils ont des itinéraires intéressants, je trouve.
Mais nos contemporains aiment bien l'histoire quand on regarde les livres. Par exemple, le polar historique. Oui. Alors, polar, ça marche bien. Mais le polar historique a aussi son heure de gloire.
Tout à fait.
Et souvent, d'ailleurs, écrit par des universitaires. Ça vous a jamais tenté ?
Alors non, je suis plutôt moins passionné. Alors c'est presque paradoxal pour un historien. J'adore les films de type uchronie, les utopies chronologiques. Donc je suis ouvert à une réécriture presque de l'histoire.
Il y a beaucoup d'universitaires anglais qui ont écrit des très beaux polars sur historique, sur le Moyen Âge.
Oui. Ben, j'ai une collègue, Colette Zitnicki, dont le mari a écrit des très beaux polars, mais pas toujours historiques, mais en partie Maurice Zitnicki, qui a publié plusieurs.
On en voit dans le domaine de la BD aussi, qui a quand même une belle vie aujourd'hui. Hein, la BD, on voit beaucoup de BD historiques de grande qualité, où le dessinateur s'associe avec un historien, et ça produit toujours de bons résultats.
Alors moi, j'ai lu Les Passagers du Vent, bien sûr, et je le conseille aux étudiants pour connaître le grand navire trois mâts trois ponts du 18e. Les Passagers du Vent, c'est très bien. Je conseille aussi la lecture de Tintin, parce que là, c'est presque une source, Tintin. C'est contemporain des événements, et ça permet d'avoir une vision, alors qui est très orientée. Hein, Hergé a eu quelques soucis, d'ailleurs. Et donc, Tintin au pays des Soviets, Tintin, alors, très anticommuniste, Tintin en Amérique, très anticapitaliste, hein, Tintin au Congo, très colonialiste, voire raciste. Hein,
mais sur la Lune, qui est votre domaine.
Oui, c'est assez prémonitoire quelque part, même si ça correspond pas techniquement. Bah,
Jules Verne l'avait déjà fait.
Mais c'est intéressant, oui.
Dans vos enseignements, vous parlez de ce qu'on trouve dans la littérature. Alors, on parlait de Jules Verne, tiens, vous, Voyage vers la Lune, ça, c'est quelque chose que vous évoquez?
Pas spécialement celui-là, mais j'utilise beaucoup, bien sûr, Balzac et Zola, parce que le rapport à la Terre dans Zola, il est évoqué dans son roman La Terre, je l'ai encore cité en cours il n'y a pas longtemps, ça permet d'appréhender, alors il n'aimait pas du tout les paysans, hein, mais ça permet d'appréhender cette France particulière, parce que la France est un cas spécifique de l'Europe occidentale. C'est un pays qui reste rural et paysan jusque dans les années 1930. La majorité des Français sont ruraux.
C'est pour ça qu'ils aiment les mouvements paysans aujourd'hui. Enfin,
On a tous des racines paysannes. Oui. S'il suffit de remonter deux générations en arrière, et c'est rare qu'on n'ait pas des paysans dans sa famille. Donc,
ils vont les aimer pendant trois jours.
Ça va peut-être.
Quand ils vont être bloqués le quatrième jour, je pense que.
Classique.
On va avoir certainement une réaction beaucoup plus égoïste. On parlait des sources aujourd'hui. Oui. On peut accéder à ce que l'on veut, ou est-ce qu'il y a des pans entiers de sources qui vous sont interdits à vous, chercheurs?
Alors, quand on arrive avec notre casquette du Mirail, parce que le Mirail se fait connaître, l'université du Mirail, Georges Aurès aujourd'hui, est connu souvent à cause de ces blocages et de ces militants d'extrême gauche, qui viennent souvent de l'extérieur d'ailleurs, hein, c'est pas tellement nos étudiants. Forcément, Airbus ne va pas nous ouvrir ses archives facilement. Mais ça a été mon combat là depuis plus de 20 ans et on a accès enfin à quelques archives. Il y a des dépôts. Airbus a déposé par exemple tous ses fonds photographiques aux archives départementales de la Haute-Garonne en gardant la propriété, mais en les ouvrant au public. Donc ça c'est très bien. Bon, Turca a eu ce réflexe bien sûr, mais c'est un long combat. Donc je travaille avec des gens, des associations. Patrimonial autour d'Airbus, Gaëtan Siaco entre autres, mais aussi l'envol des pionniers, tous ceux qui sont souvent des anciens Airbusiens, ingénieurs et autres, mais qu'on peut sensibiliser à la nécessité d'avoir des archives. D'ailleurs, j'ai une étudiante qui s'est inscrite en master pour étudier l'histoire de l'usine de Saint-Éloi, par exemple. Donc, elle va avoir accès à certaines archives, mais ça reste un combat peu évident, parce qu'il y a toujours une crainte. L'historien fait peur, toujours. Et surtout, les entreprises ne savent pas toujours ce qu'elles ont dans leurs archives. Et des fois même, elles ne savent pas trop où sont leurs archives, parce que l'histoire d'Airbus est tellement complexe que...
Je me souviens d'avoir reçu ici une jeune femme très compétente, qui était archiviste de métier et qui travaillait pour des entreprises, et de très très grandes entreprises. Elle allait un peu partout d'ailleurs dans le monde, notamment beaucoup en Suisse, pour mettre en ordre, répertorier et préparer ces archives éventuellement à la visite de chercheurs. Oui. Pourquoi vous avez fait le choix de l'aéronautique? C'est parce que le poste qui était ouvert traitait de cette question, ou c'est un choix personnel?
Alors, c'est pas du tout... Le poste n'était pas profilé aéronautique, il était profilé d'une manière très large, histoire économique et sociale, et personne ne travaillait sur l'histoire de l'aéronautique en histoire à cette époque-là. Donc, il y a une passion, bien sûr, liée à l'enfance, les maquettes, etc. Mais ensuite, l'historien, c'est quand même un amoureux des archives. Et moi, je me suis dit, il y a quand même quelques fonds archivistiques, il y avait déjà quelques premiers fonds. Et il y a un lien avec mes premières recherches, il y a un lien entre le petit monde de l'horloge et l'aéronautique, parce que les tout premiers avions sont souvent réalisés avec l'aide d'horlogers. Il faut maîtriser la petite mécanique, les pièces fines. Et même pendant la Première Guerre, hein, pour synchroniser le tir d'une mitrailleuse à travers l'hélice et interrompre le tir de la mitrailleuse quand l'hélice passe, et donc faire le chasseur idéal, là, vaut mieux avoir des horlogers avec soi, hein, sinon on détruit l'hélice très vite. Donc, Breguet, par exemple, c'est une entreprise horlogère déjà citée, mais qui est passée ensuite, un des fils Breguet, passionné, est passé à l'aéronautique. Il y a une continuité, Mauboussin, il y a des liens joaillerie, horlogerie, et aviation. Donc, on retrouve ça régulièrement. Donc, c'est une combinaison de tout ça.
Mais qu'est-ce qui est intéressant dans l'aéronautique? Si vous me parlez des Grecs, des Romains, du Moyen-Âge, je vais un peu rêver. Mais est-ce que l'aéronautique va me faire rêver? Quels enseignements on peut en tirer de ces...
Alors, c'est au cœur des débats actuels, parce que en tant qu'historien, je suis ouvert à tous les sujets. Donc, c'est pas une histoire des beaux avions qui a souvent été faite par des passionnés, encore qu'il faille des fois la revisiter, comme dans le cas du Concorde. Hein, mais c'est une histoire totale, c'est-à-dire qu'on va traiter, par exemple, de la place des employés dans l'entreprise, dans les entreprises, pas seulement les usines, mais aussi les compagnies aériennes. Donc j'ai un étudiant, on le co-dirige avec Sylvie Chaperon, qui est une spécialiste de l'histoire du genre, qui travaille sur Air France dans les années 60-70, comment Air France met en avant ses hôtesses et ses stewards. C'est assez impressionnant, hein. C'est une autre époque, hein. Les années 60, Air France et les hôtesses, l'hôtesse.
Ils n'avaient pas le droit d'être enceinte, ce qui a donné lieu après à des jugements en matière de droit du travail assez intéressants.
Right. Donc, vous voyez, donc il y a cet aspect-là. Mais on traite aussi des aspects environnementaux, puisque quelqu'un comme Claire Juillet travaille beaucoup sur l'hydrogène et les perspectives qu'offre l'hydrogène dans le domaine de l'aviation.
Et si on parle de perspectives, on parle de l'avenir, on ne parle plus du passé.
C'est vrai.
Et donc,
mais
qu'on
lui,
est toujours
il refait l'histoire de l'hydrogène depuis la catastrophe d'Hindenburg jusqu'à aujourd'hui, en disant l'hydrogène, oui, mais bon, il y a une image quand même. Voilà. Mais même les projets en cours d'écriture sur l'hydrogène nous intéressent. L'avantage d'être à Toulouse, c'est que non seulement vous avez les archives, mais vous avez aussi les acteurs. Mmh. Et les acteurs, bah, c'est de l'enquête orale. Moi, si vous voulez, tous mes voisins ou presque travaillent dans l'aéronautique. Donc, quand on prend l'apéritif, en plus, moi, je bois pas d'alcool, j'aime pas ça. Donc, bon, c'est facile. Les langues se délient. Moi, alors, si je les cite, je leur demande leur autorisation. Sinon, je les cite de manière anonyme, mais... Je suis toujours dans mon travail, dans ma recherche sur l'aéronautique. À Toulouse, on a les acteurs, on a les entreprises, donc on les archive, donc on est merveilleusement placé pour écrire cette histoire complexe.
Dans l'histoire, et vous avez évoqué tout à l'heure ce qu'avait étudié Turca, il y a l'histoire de l'art. Comment ça se positionne, c'est-à-dire, est-ce que c'est une branche complètement indépendante ou pas vraiment? On est toujours dans l'histoire. Est-ce que c'est de plus de l'art, c'est de l'histoire? Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, ça tombe bien. Hier, nous avions la réunion de la thématique 3 de notre centre de recherche, Framespa, UMR, Unité Mixte de Recherche, Université et CNRS. Et cette thématique 3 rassemble des historiens, surtout des historiens d'ailleurs de l'art, et des historiens de l'économie. Parce qu'on travaille ensemble sur les objets, leur diffusion ou non-diffusion, hein, les phénomènes de mode, etc. Donc les historiens de l'art sont précieux pour nous. Parce que nous, les historiens de l'économie, on est un petit peu brut de décoffrage. Hein. On aime bien les chiffres, on aime bien la rentabilité, etc. Il nous manque cette approche esthétique à resituer dans des phénomènes complexes. Hein. C'est ne serait-ce que l'exemple de la chapellerie. Toulouse est une ville chapelière. C'est pas un grand village, comme on l'a dit trop souvent, il y a quelques années, pas mal d'années déjà. Hein, c'est une ville industrieuse où énormément de femmes contribuent à produire des milliers et même plus de 100 000 chapeaux presque à la fin du 19e qui sont exportés dans toute la Méditerranée. Après, ça s'est déplacé
dans le sud un peu du département.
Tout à fait, oui. Mais au départ, c'est très toulousain. Mmh. Et en particulier, des chapeaux qui changent chaque année. On y reviendra quand on parlera du Grand Môle.
Dernière question, l'histoire ça remonte jusqu'où? C'est-à-dire est-ce que les archéologues sont des historiens, bien sûr?
Oui, bien sûr.
Des historiens actifs et de terrain?
Alors y compris en histoire contemporaine, puisque quand on travaille sur l'histoire de l'aéronautique, évidemment on est confronté à l'histoire des crashs. Oui. Et les crashs laissent des traces au sol. Et là, j'ai la chance de pouvoir travailler avec le grand spécialiste de l'archéologie des crashs, mais officiel, reconnu, autorisé, qui s'appelle Gilles Colaveri. Donc, il travaille dans l'aéronautique, mais c'est sa passion, l'archéologie de ces crashs. Et donc, il a recensé tous les crashs en Occitanie, en particulier années 30 et Seconde Guerre mondiale, dont on a quelques beaux appareils, genre Messerschmitt BF-109. Donc, on a même un étudiant qui a accepté de fouiller dans les archives pour retrouver les traces de cet avion, du crash, etc. Pendant que Gilles, lui, va sur le terrain, récupère des pièces, elle les fait analyser par un laboratoire spécialisé dans les matériaux, qui est le CMS, un laboratoire du CNRS, donc unité propre du CNRS. Et là, ça permet de savoir, donc ça complète notre savoir d'historien archivistique, le savoir local du crash, de savoir si, par exemple, le fameux alliage qui fait la force des chasseurs des années, de la fin des années 30, hein, soit le Spitfire, Messerschmitt BF-109, etc., ou le De Wettin des 520, le Duralumin, cet alliage d'aluminium très spécifique, est-ce qu'il était de qualité? Est-ce que les ersatz allemands étaient au niveau du Duralumin britannique, voyez? Et ça, c'est l'analyse au CMS des restes de l'avion qui s'est écrasé qui permet en partie de l'établir ou pas. Donc, oui, on peut croiser les sciences dures, les sciences... Alors nous, ce n'est pas les sciences molles, hein, c'est les sciences subtiles, nous, les sciences humaines et sociales, attention. Et donc, l'archéologie de terrain.
Alors, est-ce que, au milieu de tout ça, parce qu'on sent bien que vous êtes passionné quand vous en parlez, donc c'est un métier, mais j'ai l'impression aussi que c'est une passion. Vous avez du temps de libre aussi pour faire autre chose à côté de cette histoire?
Question délicate. Il ne faudrait pas que ma famille écoute l'émission.
Pas.
Et, non, j'ai un peu de temps libre quand même, mais à chaque fois, j'ai une dérive parce que dès qu'on va visiter quelque chose, j'essaie de proposer des destinations, entre autres à ma femme, quand je sais qu'il y a un très beau musée de l'aéronautique à proximité. Bon, donc des fois c'est jouable, des fois c'est moins jouable, mais par exemple, mais bon, j'ai aussi des membres de ma famille qui sont passionnés. J'ai un cousin qui travaille chez Airbus, et là on a fait, alors la bilan carbone catastrophique, vous allez encore me dire, on a fait un aller-retour à Sinsheim, le seul musée au monde où on peut voir un Concorde et un Tupolev 144 et monter à l'intérieur et les comparer, et même de ses propres yeux mettre fin à certains mythes. Un des mythes, c'était que Tupolev TU-144 est un Concorde ski.
Oui.
Une copie.
C'est ce qu'on a dit à Toulouse. Oui.
Ce qui n'est pas vrai. La revue Icar a fait un très bon numéro spécial qui le démontre d'ailleurs. Mais même, vous allez là-bas, et on avait dit que le train d'atterrissage du Tupolev est une copie conforme de celui du Concorde, dû à l'espionnage. Ah oui, mais au musée de Sinsheim, ils présentent les avions sur le toit du musée, les trains sortis. Vous pouvez passer en dessous et ensuite monter dans les avions et vous voyez que les trains d'atterrissage sont totalement différents. Donc.
Dont acte.
Attention.
Hein. Comme quoi les historiens peuvent nous ramener
sur Terre.
Sur Terre et à une certaine réalité. En parler d'histoire de l'art, vous avez une œuvre d'art qui vous passionne plus que d'autres?
Oui, alors, j'ai une passion pour la Scandinavie. Et très tôt, hein, parce que. On a monté dans mon lycée, donc là c'était carrément dans les années, début des années 90, ouais, ce qu'on appelait à l'époque des sections européennes, donc bilingue, français, anglais. C'était très difficile d'échanger avec un lycée anglais parce qu'ils croulent sous les demandes. Donc on avait décidé d'échanger avec un lycée suédois. Et moi j'avais une attirance pour la Scandinavie parce que l'économie, l'histoire économique, c'est ma passion. Et les modèles économiques, modèles scandinaves, bien sûr, même si aujourd'hui, il est très remis en cause, c'est quand même très intéressant. Donc, j'ai cette passion pour la Scandinavie. Et quand je suis arrivé à Toulouse, en fait, on a fait des missions, des échanges, accompagnement de classe. On est allé d'ailleurs là, en bus, jusqu'en Scandinavie, depuis Montbéliard. C'était long, mais intéressant.
Oui.
Oui. Et donc, je connaissais bien la Suède. Et c'est pour ça qu'un des Toulousains, Bertrand Delafargue, a voté pour moi, parce que lui, il avait une passion pour la Norvège, mais et je ne sais pas s'il avait eu une aventure malheureuse avec une Suédoise, il ne voulait pas travailler avec la Suède. Et donc, il m'a dit, bon, écoute, moi, je continue à travailler sur la Norvège et toi, tu travailles sur la Suède. Mais après, on a aussi échangé et je suis allé en Norvège. Et là, j'ai découvert, en français, on l'appelle Munch ou Munch, mais en norvégien, c'est Edvard Munch. Donc, et le tableau, le fameux tableau, il en existe d'ailleurs 5 exemplaires différents, sous des formes diverses, le cri.
Qui a été volé quelquefois, je sais pas
oui,
pourquoi.
Oui, en plus, c'est un tableau
tout le monde le connaît, puisque
oui,
c'est intéressant
voilà.
De savoir
donc,
pourquoi.
Donc, la naissance de l'expressionnisme, oui.
Tout à fait. Un moment particulier qui vous a marqué dans votre vie?
Oui, alors il y a un moment qui est assez amusant, c'est j'ai raconté donc ce périple avec mon beau-père pour pouvoir passer l'oral à Poitiers, puis ensuite l'oral à Toulouse, et mon beau-père, bien sûr, qui est très jurassien, dès que je suis sorti de mon oral, m'a dit bon, allez, on rentre. Donc hop, on a repris l'autoroute, parce que c'est 7 heures de route hein, pour revenir de Toulouse dans le Jura. Et on était sur l'autoroute, et là, Rémi Pêche, donc, qui était le responsable de l'histoire contemporaine à Toulouse, m'appelle, m'a dit, mais vous êtes plus là? Mais vous êtes où? Je dis, bah, je suis sur la route, je rentre, timidement. Mais c'est vous qu'on a élu. Ah bon? Parce que normalement, on n'a pas les résultats immédiatement. Mais Rémi Pêche était quelqu'un de très humain. Et... Oui, bon, puis je sais aussi par un ami que vous avez été classé à premier à Poitiers. Hein, vous avez intérêt à choisir Toulouse. Donc c'est un moment presque... Parce que ma vie change, là. Donc c'est le Jura. C'est le Jura et Lyon, à la rigueur, c'est fini. Et toute la famille, on a 3 enfants, bascule à Toulouse. Donc installation à Toulouse, vente de notre petite maison dans le Jura et achat d'une maison beaucoup plus chère dans la banlieue toulousaine. Donc ça a été quelque chose de...
Donc Rémi Pêche est un peu l'homme qui a fait basculer votre vie. Vous l'avez cité souvent au cours de cette émission.
Oui, oui, Rémi Pêche qui est un ami. Maintenant, on travaille toujours ensemble. On a fait, chez Priva, la dernière histoire de Toulouse et de la métropole. Hein. Oui, il y a un chapitre sur l'histoire de l'aéronautique, alors que jusque-là, il n'y en avait pas. Enfin, l'histoire de l'aéronautique à Toulouse, on s'approprie. Oui, Rémi Pêche est vraiment quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a accueilli, qui m'a... parce qu'à l'époque, il habitait Ramonville. Et moi, nous, on s'est installé à Castanet. Et il m'a même montré les raccourcis pour contourner les bouchons, pour revenir de l'Université du Mirail.
C'est tout un art, ça.
C'est tout un art, oui, et surtout aujourd'hui. Et donc, on a vraiment beaucoup sympathisé et fait énormément de choses ensemble. Il nous a soutenus aussi dans nos créations, parce qu'on a créé une revue d'histoire nordique avec Bertrand de Lafargue, malheureusement décédé. Et là, il a toujours été un soutien pour nous, même si le monde scandinave, c'est pas trop son truc. Lui, c'est plus quand même les vignerons de l'Aude et puis Jaurès, hein, sans l'affaire. Mais je suis aussi impliqué dans tout ça. Et on est même intervenu encore récemment ensemble pour présenter les livres de la collection là, cette année-là, parce qu'il en a fait plusieurs lui aussi. Donc, on est vraiment comme deux frères.
Alors, vous avez prononcé le mot magique, livre. On termine toujours cette émission par la séquence littéraire et je demande toujours à mon invité, question bien sûr que je vous ai posée aussi, de qui vous voudriez nous parler, de quel livre, de quel auteur?
Alors, oui, c'est un livre ancien d'Alain Fournier, donc le Grand Môle, qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai découvert grâce à une prof de français qui nous a imposé de le lire. Et moi, je lisais plutôt des livres d'histoire, des livres de bataille, des choses comme ça, quoi. Et des BD aussi, bien sûr, Gaston, etc. Et là, j'ai découvert ce livre, je l'ai dévoré en une soirée, et ça m'a fasciné. Ça me parlait, alors que ça se passe quand même en 1913, quoi. Et après, comme historien, je me suis dit, mais ce livre, c'est une source, en fait. Parce que, bon, Alain Fournier meurt hein, très, très jeune, 27 ans, je crois, en 1914. Hein. Et le livre est plein d'enseignements. Je le cite souvent en cours. On a parlé de Toulouse, qui n'est pas un grand village, et qui est une ville qui a produit des chemises, des chapeaux. Eh bien, je cite le début du Grand Môle. Hein, c'est François le copain de Maulne, donc, qui est le fils des instituteurs. Et François est en train d'être à la messe et il attend sa mère parce qu'il y a un événement essentiel. Sa mère va recevoir son nouveau chapeau pour la belle saison. Et normalement, elle doit faire une entrée triomphale à l'église avec son chapeau un petit peu pour bien le montrer à tout le monde. Et là, il est très déçu parce que, en fait, le chapeau est arrivé en mauvais état. Il a fallu le remonter et sa mère, Millie, ne vient pas à l'église. Vous voyez? Donc, cette industrie du chapeau, on a du mal à comprendre aujourd'hui. Mais au 19e siècle et début 20e, on ne peut pas sortir la tête découverte. C'est très mal vu. Et puis, c'est un marqueur social aussi. Un casquette pour les ouvriers, un chapeau de paille pour les paysans, un chapeau très élaboré en ville, en particulier pour les femmes de la bourgeoisie. Et on le produit avec une multitude d'étapes. Il y en a une qui va faire que le bord, l'autre la monture, l'autre le ruban en soie, l'autre elle va mettre des fleurs, voire des bijoux, des décorations. Donc on divise le travail et on a une production en grande quantité de chapeaux qui sont exportés dans tout le bassin méditerranéen.
Un travail à la fenêtre là aussi?
Et c'est toujours du travail en grande partie à la fenêtre dans les appartements toulousains et c'est un travail féminin. Les grandes invisibles, là je fais beaucoup travailler sur les femmes, les entoileuses dans l'usine Natécoère dont on a du mal à trouver les noms. Hein. Les femmes sont les grandes invisibles quand même de l'histoire, et surtout dans l'histoire économique et sociale. Heureusement, ça progresse. Et on les trouve que, grâce à la micro-histoire, la micro-storia, l'Alltagsgeschichte, souvent la trace des femmes, on va la trouver dans des archives micro-historiques très spécifiques, comme les archives judiciaires. Parce que là, on est bien obligé de parler d'elles. S'il y a eu un meurtre, s'il y a eu un divorce qui était un peu scandaleux à l'époque, etc., ça donne lieu à des archives, à des descriptions, et c'est là que finalement, les invisibles apparaissent. Mais c'est un travail de Romain.
pour un historien. Alain Fournier, Le Grand Mole, qui donc écrit en 1913, et vous nous avez dit, Alain Fournier, il a écrit ça à 26 ans.
Oui.
Alors moi, je vais vous parler d'un autre livre, et je vais remonter un peu, en 1954, et moi aussi, mon auteur, ou autrice, dirait-on maintenant, l'a écrit, elle avait 18 ans. Alors c'est un livre dont j'ai toujours entendu parler, mais la semaine dernière, j'étais très en avance pour un rendez-vous, donc je me suis arrêté ombre blanche, j'ai traîné, parce qu'il faut que je sois au milieu des livres, et puis j'ai mis la main sur ce petit livre que j'ai pris et que j'ai lu moi aussi quasiment dans la soirée. Ça s'appelle « Bonjour Tristesse ». C'est de Françoise Sagan, une lotoise qui est partie du Lot et qui en est revenue. Donc c'était son premier roman. Elle n'avait que 18 ans. Elle écrit ça à l'été 53. Elle s'appelait Françoise Guarez au départ. Et puis elle a choisi ce nom de Sagan tout simplement. Elle est allée le piocher dans Proust, je crois. Puisqu'il y a un noble qui s'appelle Sagan, et comme son père ne voulait pas qu'elle publie sous son nom, elle a choisi ce nom de plume. Elle a rédigé en cachette ce roman en 6 semaines, ça a été très très vite fait, et ça a été immédiatement... ce titre est tiré d'un poème, je crois, de Paul Éluard dans La vie immédiate, et ça a été un succès foudroyant, immédiat. Ça a été lancé à 20 000 exemplaires, ce qui déjà pour l'époque était assez considérable. Il y avait le début de l'émancipation féminine. De suite, le roman a reçu un accueil critique un peu suspicieux, parce que les critiques étaient des hommes. Mais très rapidement, justement, elle a eu le prix de la critique. Et très vite, les ventes ont atteint... Alors en 2011, on était à 2 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même l'un des plus grands best-sellers de l'histoire de l'édition française. 2 millions, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont signé, 2 millions. Elle a écrit beaucoup d'autres livres après, mais enfin, elle avait 18 ans. Donc, lisez, relisez, Bonjour Tristesse. C'est vraiment un livre très, très frais, très agréable. Et on sent la jeunesse derrière de l'auteur, mais on sent déjà la maturité en termes d'écriture. Merci Jean-Marc Olivier, on est arrivé largement au bout de cette émission. Vous nous avez passionnés, on espère que vous allez continuer dans des semaines à venir à nous passionner.
Semaine, oui.
À nous passionner, nous allons en débattre.
Je ne sais pas, peut-être pas la semaine prochaine.
Non, mais nous allons en débattre.
Oui.
Voilà, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Léo Touroult. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.